Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Tout d'abord, j'aimerais ça vous donner un compte-rendu de la course du sentier qui a eu lieu samedi dernier. On vous a parlé de cet événement-là depuis plusieurs semaines. Donc, on a eu la course samedi passé, une très belle journée, là. Je pense une des plus belles températures d'automne pour courir. On a eu un 5 km, un 10 km. J'aimerais premièrement pouvoir féliciter les gagnants de la course. On avait deux courses, donc 5 km, 10 km. Il y a Isaac Farley, un des jeunes de la jeunesse, qui a gagné le 5 km, et Paul Dupont qui a gagné le 10 km, et je m'en remets encore, parce que la semaine d'avant, on était les deux inscrits au 10 km avant la course, puis il y a eu 10 personnes finalement qui ont couru la course, puis on est allés courir ensemble, puis j'ai dit, Paul, j'ai dit, c'est le fun, parce que là, je le sais que je vais finir premier, puis toi, tu vas finir deuxième. Puis là, il m'a battu, fait qu'on riait de ça, puis il a fallu que je lui demande pardon pour ça. Mais c'était une super belle activité. 38 coureurs inscrits avec les enfants. Il y avait plus de 50 personnes qui ont marché ou couru. Et puis, il y a les bénévoles qui étaient là. Il y avait une gang de jeunes, la Pointe aux Jeunes aussi, qui étaient avec nous, qui servaient la collation, qui ont mis la musique. Puis en tout, on a ramassé environ 1 800 $ pour la Pointe aux Jeunes. Donc, c'est vraiment un bel événement, une réussite qu'on espère pouvoir continuer dans les prochaines années. Donc, merci à tous ceux qui ont participé de toutes les manières qu'on vous avait encouragé. Donc, ce matin, on va continuer notre série de prédications en vue du lancement de nos groupes Connexion qui sont déjà à notre porte. Déjà là, c'est la semaine prochaine, les groupes Connexion qui vont débuter. Et on en a parlé, c'est la troisième semaine qu'on en parle plus. Ça fait des années qu'on parle du concept des groupes Connexion. Et là, c'est la semaine prochaine que ça va commencer. Je sais qu'on a encore des questions. Il y en a qui se demandent encore comment ça va fonctionner. Puis c'est pour ça qu'on a pris plusieurs semaines pour en parler. Puis après la prédication ce matin, Eric, qui est le coordonnateur des groupes Connexion, va aussi venir avec Jean Destin pour parler du troisième groupe Connexion et aussi du déroulement là, pour la semaine prochaine. Donc, inquiétez-vous pas, ça va tout bien se faire et on va nous aider les uns les autres pour que ça puisse se faire de la meilleure, que le changement puisse se faire de la meilleure façon possible. Donc, ce matin, on va voir, toujours en continuant à réfléchir ensemble sur les relations. Parce que les groupes Connexion, c'est des groupes où est-ce qu'on veut mettre l'emphase sur les relations, connecter les uns avec les autres, connecter avec Dieu, connecter avec les autres et connecter avec la communauté. Et ce matin, on continue dans cette réflexion-là et on va regarder ensemble comment est-ce que notre identité en tant qu'enfant de Dieu est un des plus beaux cadeaux que Dieu qu'on a reçus. Puis on va voir comment Dieu nous appelle à vivre à la lumière de cette réalité. Puis juste un petit exemple, en septembre, mon fils, mon plus vieux, est rentré à la maternelle. Mathis a 5 ans, c'était la première fois que c'est notre premier enfant qui rentrait à la maternelle. Et c'était excitant pour nous. Lui, ça faisait comme 3 mois qu'on lui parlait de la maternelle, puis tout le monde disait qu'il allait commencer l'école, donc il avait hâte. Mais en tant que parent, on se pose plein de questions. Moi, j'étais là, ça l'a mis à la lumière, mon identité en tant que père. Est-ce que mon fils va bien faire ça? Est-ce qu'il va écouter son enseignante? Est-ce que, puis là, tu sais, plein de questions comme ça, puis je me rendais compte que comment est-ce qu'il va être avec les autres enfants, qu'est-ce que les autres parents, ils vont dire de mon fils, puis là, je me rendais compte que, aïe, tu sais, juste un événement là, très, très, très normal dans la vie des gens, comment est-ce que ça peut tout de suite nous amener à nous poser cette question-là, comme les choses qu'on fait, les choses dans lesquelles on met beaucoup de valeur vont forger notre identité, facilement forger notre identité. Puis ça peut devenir vraiment lourd des fois parce que finalement, ça nous laisse avec plus de questions que de réponses, plus d'incertitudes, plus de lourdeur à savoir, dans mon cas ici, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, comment est-ce que mon fils va réagir, est-ce que je suis un bon père et tout ça. Quand on centre notre identité sur notre performance, sur comment on fait les choses et est-ce qu'on les a bien faites, est-ce qu'on les a pas bien faites, peu importe. Ça peut devenir très stressant et très lourd. Puis si tu es comme moi, bien souvent, on va faire la même chose. On va mettre nos espoirs, notre valeur sur les choses qu'on fait. On va évaluer notre valeur en fonction de ce que les autres vont dire de nous, ce que les autres vont penser des choses qu'on fait, des choses dans lesquelles on réussit ou dans les choses dans lesquelles on échoue. Et ces choses-là vont former notre identité. Puis ce matin, j'aimerais ça qu'on se pose ensemble, qu'on pose ensemble quatre questions. Quatre questions qui vont nous aider à constamment revenir à la base de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce qui tient cette identité-là en place? Qu'est-ce qui tient qui je suis? Qu'est-ce qui tient mes résultats, mes réussites, mes échecs en tant que père, en tant que mari, en tant que membre de la famille de Dieu? Et quatre questions justement qui vont nous aider à constamment retrouver notre identité en Dieu et de vivre notre identité à la lumière de l'Évangile. Puis les quatre questions, on va les voir dans Éphésiens. On peut faire cet exercice-là à peu près partout dans la Bible, mais on voit qu'ici, Paul, il va poser ces questions-là. Les quatre questions, c'est qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Je pense qu'Alexandre nous les a présentées la semaine passée. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui est-ce que je suis à la lumière de qui il est et de ce qu'il a fait? Et qu'est-ce que je fais une fois que on trouve notre identité? Donc, toujours dans cet ordre-là, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, qui est-ce que je suis à la lumière de ça, et qu'est-ce que je fais en réponse à mon identité. Et c'est important de se poser les questions dans cet ordre-là parce que ce qui est naturel, en tout cas ce qui est naturel pour moi, c'est de le faire à l'envers. Et je vais mettre ma fierté, je vais mettre mon identité dans les choses que je fais. Ce que je fais va déterminer qui je suis. Et puis là, ça va déterminer ce que Dieu va faire pour moi et qui il est pour moi. Et souvent, c'est avec ce raisonnement-là qu'on avance dans notre vie. Et on a tous nos luttes, nos exemples personnels, toutes les choses qu'on peut vivre, où est-ce qu'on pourrait se poser ces questions-là et réaliser qu'on met beaucoup d'efforts sur notre propre réussite. En tout cas, moi, c'est vraiment un défi, une lutte de mettre tellement d'efforts sur notre propre réussite plutôt que sur qui est Dieu. Donc, on va regarder ce matin ensemble dans Éphésiens 1, un passage où est-ce que ces questions-là sont abordées. Donc, avant de lire le passage, on va se courber puis on va aller dans la prière. Seigneur Dieu, on te prie ce matin que tu puisses nous accompagner dans ta parole, que tu puisses nous parler à travers de ta parole, nous encourager au travers de ta parole, nous convaincre, Seigneur, au travers de ta parole, que tu es Dieu, que tu nous aimes et que c'est ce qui compte, Seigneur, dans nos vies. Que tu puisses nous convaincre que tu as tout fait pour nous. Que l'Évangile, c'est la meilleure nouvelle que chacun d'entre nous, on puisse découvrir et qu'on puisse vivre, Seigneur Jésus. Et je te prie qu'on puisse être convaincu par ta parole ce matin de cette vérité-là. Qu'on puisse être encouragé et que cette vérité puisse nous impacter en tant qu'Église à aimer comme tu nous as aimés, Seigneur Jésus. Et que ce matin, tu puisses vraiment parler à nos cœurs. Et je sais que des fois, on vient ici avec toutes sortes de choses dans notre esprit, des choses qu'on vit, des réflexions, des incertitudes. Ce matin, Seigneur, on est ici. On te prie qu'on puisse se reposer en toi, être attentif à ta parole, être attentif au travail de l'Esprit dans nos vies. C'est dans ton nom qu'on te prie, Seigneur Jésus. Amen. Donc, on va lire ensemble dans Éphésiens 1, à partir du verset 3, jusqu'au verset 14. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu. À savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel, ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ça, c'est vraiment, vraiment un beau passage. On lit ce passage-là, et quand on considère ce que Paul est en train de faire, Paul est en train de simplement bénir Dieu pour tout ce que Dieu nous a donné. Mais pas seulement pour ce qu'il nous a donné, mais pour qui il est, ce qu'il a fait à travers son Fils, et à cause de ça, ce que Dieu nous a donné, il nous a donné une identité. Et dans Éphésiens, on voit toutes sortes de bénédictions liées à notre identité. On a fait une série il y a 4 ans de cela, dans Éphésiens, où on a vu toutes les bénédictions que Dieu nous a données, qui sont liées à notre identité. Combien de fois dans ce passage-là, où on voit que nous sommes bénis, nous sommes ses enfants, nous sommes choisis, c'est Dieu qui dit « vous êtes » par l'action de son Fils. Et ce matin, on va se concentrer spécifiquement sur cette bénédiction-là, où ce qui dit qu'on a été, prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Dieu a fait de nous ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Mais je voulais vraiment qu'on lise ce passage-là parce que Paul écrit une phrase, et je ne sais pas si vous allez vous sentir interpellé par ça, mais Paul écrit une phrase, une longue phrase. Dans le texte original, dans la langue que Paul a écrit, il a écrit les versets 3 au verset 14 sans s'arrêter. C'est une phrase. Et moi, j'avais un problème quand j'étais à l'école. Mes professeurs me le disaient tout le temps. Ils disaient, Monsieur King, vous mettez des points puis des virgules dans vos phrases. J'arrêtais pas d'écrire. J'écrivais. Puis là, moi, j'avais un problème de français. Là, c'était pas juste parce que mais c'est pas le cas ici. Mais une des choses, par exemple, qu'un de mes profs m'a déjà dit quand j'étais rendu au secondaire 4 ou 5, ça a pris du temps pour que je me sente compris, c'est le professeur m'a dit, « Monsieur King, il dit, pour vous, ce qui est plus important, c'est le contenu, mais pas le contenant. » Parce que quand il lisait mes productions, c'était tout croche, il n'y avait pas une très bonne syntaxe, mais il comprenait que je mettais beaucoup d'efforts dans le contenu. Et moi, ça pouvait m'arriver, là, je partais à écrire, puis là, j'arrêtais pas, puis là, je partais dans mes pensées, puis là, je trouvais ça bon, puis là, je lisais, puis oh boy, il y a une méchante phrase. Mais Paul ici, c'est un peu ça qui est en train de se produire. Il écrit une phrase de 220 quelques mots parce qu'il est comme emballé de ce que Dieu est en train de faire. C'est comme il est en train de bénir Dieu, puis il est tellement emballé de ce que Dieu est en train de faire qu'il est comme pas capable d'arrêter d'écrire. Puis dans ce passage-là, il n'arrête pas de bénir Dieu pour ce que Dieu a fait en Jésus. Plus de 11 fois, on va voir en lui ou des expressions liées à Jésus-Christ. Il est en adoration concernant l'œuvre de Dieu dans sa vie. Puis c'est assez intéressant parce que quand on regarde ce passage-là, on va voir que plus loin, Paul, et dans Éphésiens, Paul, il va parler de l'appel d'un chrétien qui a mis sa confiance à Jésus, comment vivre sa vie, mais tellement enrobé constamment de ce que Dieu a fait, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, du fait que c'est Dieu qui nous a donné toutes ces choses-là. Il ne passe pas beaucoup de temps sans nous rappeler que tu es capable de faire ça parce que Dieu l'a fait avant. Et c'est comme ça qu'il commence, Éphésiens, avec toute une longue phrase où il bénit Dieu pour tout ce que Dieu est, puis tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il nous a donné. Et ce qu'on veut réaliser en lisant ce passage-là, c'est que nous sommes qui nous sommes à cause de Dieu. On est qui on est à cause de Dieu. Et ça, c'est vraiment une vérité qui est pertinente, qui est importante quand on a de la difficulté à trouver notre valeur ailleurs que dans ce que je fais, dans ce que je poursuis, dans mes réussites, mes échecs. On a tout ça dans notre vie, mais de se rappeler qu'on est qui on est à cause de Dieu. Et c'est ce que Paul est en train de faire ici, spécifiquement quand il dit que il nous a choisis pour faire de nous ses enfants adoptifs. On est qui on est à cause de qui Dieu est et de ce qu'il a fait pour nous. Puis comme Paul ici, il nous dévoile une dimension de Dieu qui vient à nous comme un père. Dieu qui vient à nous comme un bon père, qui a choisi d'être notre père. Et quand on se pose justement la question qui est Dieu, ici on voit que Dieu c'est un bon père qui a choisi de venir à nous comme un père, de se révéler à nous comme un père. Et ça, ça nous dit que Dieu il se rend accessible à nous. Ce que Paul est, une des bénédictions de Paul ici, c'est qu'il est en train de dire Dieu nous aime, Dieu est notre Père, Dieu veut avoir une relation intime avec chacun d'entre nous. Et ça, c'est quelle bénédiction de connaître Dieu de cette manière-là. De connaître Dieu comme un Père qui veut prendre soin de nous, qui nous aime. Et comme on voit ici, qui est venu nous chercher. Parce qu'on n'était pas... On n'était pas ses enfants. Il est venu nous chercher. Il nous a adoptés. Et c'est quand on se pose la question, qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu est un bon Père qui nous a tellement envoyés, qui a envoyé son Fils Jésus mourir pour nos péchés. Et c'est ça que Paul, en fait, est en train de bénir ici, comme je disais tantôt, plus de 11 fois, il va mentionner le nom de Jésus ou que c'est à cause de Jésus, que c'est par Jésus que Dieu a fait tout ça, que c'est à cause de Jésus qu'on reçoit toutes ces bénédictions-là. Donc l'œuvre de la croix est tellement centrale au message d'adoration de Paul ici que c'est vraiment la réponse à la question « qu'est-ce qu'il a fait ?» Mais c'est qu'il nous a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous réconcilier de nos péchés. On peut le lire ici au verset 6 et 7 encore. Il dit, à la fin du verset 5, il dit « C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Et le début du verset 8 dit « Dieu nous l'a accordé avec abondance. » Et ça, c'est vraiment important. Parce que c'est la démonstration. Dieu est un bon Père qui nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous réconcilier, pour qu'on puisse être enfant de Dieu, pour qu'on puisse être appelé enfant de Dieu. Et maintenant, à la lumière de ces choses, on voit que on est qui sommes-nous? On est des enfants adoptifs qui avons tellement été aimés par Dieu. Vous voyez, c'est clair quand on lit ce passage-là qu'il n'y a rien de ce qu'on a qu'on puisse... Ce que Dieu nous donne, il nous donne un gratuitement, il nous donne avec amour, il nous le donne en abondance. Et on va voir à quel point cette abondance-là, c'est important de le saisir comme étant, c'est tellement abondant qu'il a pu même me sauver moi. Il a pu même me pardonner moi, il m'aime moi. Mais c'est que ça nous rappelle constamment dans la vie que je n'ai pas besoin de toujours essayer d'être quelqu'un, d'essayer de me dépasser, d'essayer de répondre à toute cette pression de la valorisation, puis d'aller chercher mon acceptation chez les autres, alors que Dieu me dit, j'ai déjà tout fait ça pour toi en abondance. Et c'est comme je me rends compte que c'est peut-être dans la vie chrétienne, le combat le plus difficile de constamment s'arrêter puis dire, Dieu, tu es mon Père, Dieu, tu m'aimes, Dieu, tu prends soin de moi. Et c'est normal d'avoir ces luttes, c'est normal de ne pas toujours se sentir comme ça, on va en parler un petit peu plus tantôt, mais là, c'est comme Paul établit cette vérité-là qu'il a besoin de rentrer comme une vérité qui est la vérité du salut de notre âme. Dieu nous aime et Dieu nous a démontré son amour en envoyant Jésus. Et de voir qu'on est ses enfants adoptifs, c'est de voir que cette grâce abondante qu'on voit dans le passage ici, la grâce abondante de Dieu nous donne cette identité d'enfant de Dieu. Et ça, c'est tellement encourageant, puis ça fait tellement du bien de se rendre compte que c'est pas ton passé qui détermine qui tu es. C'est pas tes succès ou tes échecs qui déterminent qui tu es. C'est pas tes espoirs non accomplis, tes déceptions. Non, Dieu, notre Père, a fait de chacun de nous qui était orphelin ses enfants adoptifs. En fait, il nous a aimés malgré toutes ces choses-là. Il est allé nous chercher alors qu'on vivait toutes ces difficultés-là, ou qu'on vivait toutes ces recherches-là, ou qu'on vivait toutes ces luttes-là. C'est là qu'il est venu nous chercher. Puis sa grâce n'est pas trop petite. Comme ici, on parle de la gloire de sa grâce abondante. Sa grâce n'est pas trop petite pour que ce soit vrai pour toi. Puis tu es accepté comme enfant de Dieu. Tu es accepté comme enfant de Dieu à cause de la mort de Jésus à la croix. Point. Et puis ça, c'est tellement. Il y a tellement de. Des fois, on vit la grâce de Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as aimé. Merci, tu me pardonnes de mes péchés. Puis là, à d'autres moments donnés, ça va être comme. Moi, parfois, je me sens comme ça. Il me semble, Seigneur, que ça fait trop de fois que je lutte avec le même péché, ou que je lutte avec les mêmes pensées, ou que. Puis là, Seigneur, il me semble que là, tu dois être tanné de me faire grâce, ou que tu dois. Non, la parole nous dit que sa grâce, elle est abondante. Et quand on se sent comme ça, la vérité, la seule vérité, c'est que Dieu t'aime. Oui, mais moi, je pense toujours que je peux tout contrôler, puis je laisse souvent Dieu hors de l'équation. Sa grâce, est-ce que sa grâce, elle est suffisante? Dieu t'aime. Oui, mais moi, j'ai un passé très lourd. Dieu t'aime. La grâce de Dieu, une illustration que je réfléchissais l'autre jour, puis je me dis, la grâce de Dieu, il faut voir ça comme c'est nous qui avons une dette. On a une dette énorme envers Dieu. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. On voit qu'on a une dette envers Dieu. À cause qu'on est pécheur. Et ce que la Bible nous dit aussi, c'est qu'on est les seuls responsables pour cette dette-là. Nos péchés, nos erreurs, on a comme accumulé une dette. On a une dette envers Dieu. Puis on est les seuls responsables. Je suis le seul responsable de ma dette. Personne d'autre. Puis Dieu, dans son amour, il n'a pas choisi de dire, « Ben là, Dominique, ta dette, là, c'est toi qui l'as accumulée. Fait que là, il faudrait plus que je t'enseigne là, comment pas trop faire d'erreurs pour que tu sois pas trop pécheur, puis que tu sois une bonne personne. Puis il faudrait que. Dieu, il a pas dit, ben, ta dette, là, Dominique, là, voici comment est-ce qu'on va la régler. Donne-moi un montant, puis à chaque fois que tu me donnes 100$, ben, moi, je vais te clairer 200$ de ta dette jusqu'à temps que tu sois à zéro. Puis là, à ce moment-là, là, je vais t'avoir enseigné comment être une bonne personne. Non, Dieu a pris ma dette, puis il a dit, en Jésus, à cause de ce que Jésus a fait, en lui, 11 fois dans le passage, en lui, Dieu dit, tu es pardonné. Tu es pardonné. C'est comme 0 $ du moment où est-ce que on saisit la grâce de Dieu. Dieu il dit, je t'aime et tu es pardonné. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. On a tellement besoin de ce message-là, même quand ça fait 15, 20, 30 ans qu'on connaît Jésus puis qu'on a saisi sa grâce un jour, on a tellement besoin de se rappeler, j'ai plus de dette, je suis plus coupable, Dieu m'a pardonné, il a payé ma dette. Et c'est comme ça qu'il m'a aimé. C'est aussi une grâce de quand on considère d'où Dieu est venu nous chercher, nous adopter. Je ne connais pas la vie de tout le monde ici, je ne sais pas d'où vous venez, mais vous le savez. Et chacun d'entre nous, à un moment donné dans notre vie, on était, comme dans le texte le dit, on était des orphelins, pour employer l'expression du texte, on est devenus des enfants adoptifs, à la recherche d'identité, d'appartenance, de valeur, et loin de Dieu, à notre manière, mais loin de Dieu, chacun d'entre nous. La Bible dit, même ennemi de Dieu. Et Dieu vient dans ce moment-là nous chercher comme ça, puis dire, viens, je te pardonne. Et le fait de voir Dieu comme un père, ce n'est pas juste un juge qui dit, je te pardonne, t'es pardonné, c'est fini. Non, c'est, viens, je te pardonne, rentre dans ma maison, fais partie de ma famille, maintenant je vais prendre soin de toi. Et je vais continuer à faire ça. Wow! Et c'est ce qu'on voit au travers de tout ça, c'est que on est. Si je suis un enfant de Dieu, à cause de qui Dieu est et de ce qu'il a fait pour moi, si on est des enfants de Dieu, ça fait de nous la famille de Dieu. Puis encore aujourd'hui, on a besoin d'apprendre à vivre à la lumière de cette identité-là. On ne vit pas dans un monde où est-ce que. Dieu nous a donné une nouvelle identité, puis là, on la comprend parfaitement, puis on aime Dieu toujours, puis on aime les autres toujours, puis on prend soin de Dieu, des choses de Dieu, puis on prend soin des autres constamment. Puis non, ça va venir un jour, puis dans le passage, ça le dit, qu'un jour, à la fin, il dit, il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Un jour, ça va arriver complètement, où ce que, ça va être... Comment dire, un no-brainer qu'on est les enfants de Dieu, puis que Dieu nous aime, puis qu'on peut aimer les autres sans limite. Ce n'est pas encore le cas. Et on a constamment besoin de se rappeler que j'ai besoin de croire, j'ai toujours besoin de croire que je suis un enfant de Dieu. Que mon identité se trouve dans le fait que Dieu m'a aimé en envoyant son Fils. Puis rappelons-nous aussi dans nos relations les uns avec les autres que personne fait partie de la famille de Dieu à cause du mérite. Personne fait partie de la famille de Dieu parce qu'il est meilleur, plus fort, plus intelligent, moralement plus droit que les autres. La grâce nous rappelle que la famille de Dieu, on est tous des bénéficiaires de sa grâce, puis on a encore désespérément besoin de sa grâce. On a encore désespérément besoin de se rappeler qu'on a besoin de cette grâce abondante. Et c'est ce que notre Père nous donne constamment dans son amour. Notre église, l'église de Sentier, est remplie de personnes, au moins une, parce que les choses que j'écris là, je me vois dans ça, mais est remplie de personnes qui ont des doutes, des difficultés, que le mariage a des défis, des fois ça va moins bien, il y a plein de réflexions, c'est certainement pas toujours rose. On est rempli de personnes qui, des fois, on ne sait pas quoi faire avec nos enfants. Des fois, on essaie des choses, ça ne marche pas. Des fois, on doit se repentir parce qu'on a mal agi. On est rempli de personnes qui ont des peurs, qui luttent avec leur passé, qui luttent avec leur réalité, avec leur péché. C'est qui nous sommes. Et c'est les personnes que Dieu, le Père, a dit, vous êtes maintenant ma famille et je vous aime et je vous regarde et je vous aime encore et encore et encore. Parce qu'on n'est pas défini par ces choses. Et deux choses qu'on peut faire dans, quand on lutte avec toutes ces choses-là, c'est que, comme on a vu, c'est qu'on peut constamment regarder à Dieu, constamment regarder à Dieu pour nous rappeler qui on est d'abord, avant de dire, bon, qu'est-ce que je fais? OK, mais je suis qui? Puis on peut toujours regarder à Dieu d'abord pour nous rappeler qui il est puis qu'est-ce qu'il a fait pour nous quand on vit ces choses-là. Mais aussi on peut chercher l'appui de la famille. On ne doit pas vivre l'illusion qu'on est les seuls à vivre ce qu'on vit. On ne veut pas que l'Église soit un endroit où est-ce qu'on n'est pas capable de partager ces choses-là. On ne veut pas que l'Église soit un endroit où est-ce qu'on sent que j'ai tellement besoin de performer pour être accepté par les autres, alors que mon père, le chef de la famille, est venu me chercher alors que j'étais perdu complètement, puis qu'il continue à m'aimer alors que je lutte. Puis on ne veut pas que notre Église soit un endroit où est-ce qu'on vit soit du jugement ou que nous, on sent le besoin de performer constamment puis de bien paraître. On veut que l'Église puisse être un endroit où est-ce qu'on puisse vivre la grâce de Dieu que Dieu nous donne. C'est ce qu'on veut par la grâce de Dieu vivre. C'est ce qu'on veut parce que Dieu, notre Père, nous a tellement aimés, qu'il a fait de nous ses enfants et maintenant il veut qu'on vive comme une famille qui aime, qui s'aime les uns les autres et qui aime son prochain. Mais toujours comme Paul le fait dans Éphésiens, enrobé de cette identité que Dieu nous a donnée. On peut voir dans Éphésiens 4, juste vite fait, mais Éphésiens 4, le verset 1 et 2 qui dit « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Et si on continue à lire le chapitre 4, on verrait encore, puis vous pouvez le faire plus tard, encore que cet encouragement-là de Paul est encore entouré de la grâce de Dieu puis la puissance de Dieu. Comme Paul y comprend, puis il nous enseigne qu'on ne peut pas faire ça si on ne saisit pas l'amour, si on n'est pas aimé par Dieu, si on n'est pas constamment rappeler qu'on a été aimé par Dieu, que Dieu nous aime. Mais maintenant, informé par notre identité d'enfant de Dieu, Dieu nous dit, supportez-vous dans l'amour. Ce que Paul nous dit en d'autres mots, c'est ce que Dieu a fait en toi, ou ce que Dieu t'a donné. Mais ce que Dieu a fait en toi, il veut le faire à travers toi. Dieu t'a aimé et il veut aimer à travers toi. Il veut aimer à travers sa famille. La Bible, dans Jean, on peut lire que le monde va reconnaître qu'on est ses disciples à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Parce que Jésus nous a aimés. Ce que Dieu a fait en toi, il veut le faire à travers toi. Il est notre Père, il nous a tant aimés, il a donné son Fils pour faire de nous sa famille, pour que nous puissions vivre à la lumière de cette identité dans l'amour les uns pour les autres. Et quand on pense à ça, quand on pense au groupe Connexion, quand on vous a présenté les groupes Connexion, quand on a présenté les groupes Connexion qui s'en viennent la semaine prochaine, on présente les groupes Connexion, si vous avez aussi vu la vidéo qui a été faite pour annoncer les groupes Connexion, que les groupes Connexion, on est une famille dans la grande famille. On veut créer ou faciliter un contexte où les gens vont pouvoir vivre ces relations-là ensemble. Et notre rêve, c'est que les groupes Connexion, maintenant, on le voit, on le sait, ça va se passer de 10h30 à 11h30 les dimanches matins à l'église de Sentier. Mais notre rêve, c'est que, tout comme l'église, la famille de Dieu, c'est qu'on puisse vivre notre identité de famille de Dieu à l'extérieur d'un programme d'une heure. En fait, l'église, ce n'est pas un programme, les groupes Connexion, c'est plus qu'un programme d'une heure, c'est des relations, c'est une famille qu'on veut établir, qu'on veut être là les uns pour les autres. On veut créer ces relations-là pour que les gens puissent connecter ensemble, pour que les gens puissent s'aimer, s'encourager, prier les uns pour les autres. Quand je pense à mon adoption dans la famille de Dieu, une des premières choses qui me vient en tête, c'est un sentiment d'appartenance. Et c'est tellement, tellement important. Je lisais, je ne sais pas si c'était une vidéo ou un article sur le web, une recherche qui avait été faite sur les gangs de rue, puis on disait que qu'est-ce qui fait que c'est si facile pour les gangs de rue de recruter des jeunes, c'est qu'ils prennent des jeunes qui n'ont pas de sentiment d'appartenance, puis ils disent « Viens, tu vas être ma famille maintenant. » Puis ces jeunes-là, c'est tout ce qu'ils ont voulu toute leur vie, puis c'est super facile de recruter des jeunes. La comparaison avec les gangs de rue s'arrête ici, mais c'est quand même intéressant de voir ça, de réaliser comment important, comment Dieu nous a créés avec ce besoin d'appartenir, avec ce besoin-là d'être en communauté, d'avoir une famille. Et oui, on a des familles, il y en a qui ont des familles, vous avez des bonnes familles, vous êtes bénis d'être dans votre famille, d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Mais Dieu dit, moi je veux faire de vous ma famille. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'on veut vivre ensemble les uns les autres. On veut que ce sentiment, on veut que Dieu puisse créer en nous ce sentiment d'appartenance à la famille de Dieu. On veut prendre soin les uns les autres, se supporter. On veut pleurer quand c'est le temps. On veut donner quand il y a des besoins. On veut prier les uns pour les autres. Et dans les groupes connexion, c'est un des temps qu'on va avoir ensemble. Est-ce qu'on va avoir un temps de prière les uns pour les autres? Et c'est souvent dans la prière qu'on voit le cœur, ce que les gens y vivent et comment est-ce que c'est, on peut s'accompagner dans tout ça. On veut voir dans les groupes connexion justement cette communauté de support, d'entraide, comment est-ce que, de voir qu'on prie que dans notre église, que la famille puisse se consolider puis qu'on puisse voir les gens de plus en plus être en relation et plus que juste venir au groupe connexion ou venir à l'église, mais de dire ça c'est ma famille. Je peux contribuer à la famille et on me sert aussi dans la famille. Une famille, ce qu'on veut voir, et une famille ensemble, ça célèbre. Le dimanche matin, quand on se réunit ensemble, une des choses qu'on fait, c'est qu'on célèbre la grâce abondante de Dieu. La glorieuse grâce abondante de Dieu. C'est ce qu'on fait par les chants, c'est ce qu'on fait quand on se réunit ensemble, c'est ce qu'on fait quand on prend le repas du Seigneur. Ensemble, on se réunit pour célébrer la grâce abondante de Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu de célébration. Dieu, dans la Bible, il y a plein d'endroits où ce que Dieu nous appelle à célébrer, à fêter, souvent en rappel de ce qu'il a fait, en rappel, célébrer ce qu'il est en train de faire. Et en tant que famille, on veut faire ça. Célébrer les uns avec les autres. La famille s'amuse, a des temps pour s'amuser. Et on veut comme créer cette... Je ne dis pas que dans le groupe Connexion, on va faire des jeux, comme à la jeunesse, par exemple. Mais on crée ces relations-là où est-ce qu'on peut ensemble connecter, où est-ce qu'on peut s'amuser ensemble, où est-ce qu'on peut voir des gens à l'extérieur de l'Église. Un autre point qui est super important avec la famille de Dieu, c'est que la famille de Dieu, elle est inclusive, elle est accueillante. Et quand je réfléchissais à ça, une chose que je me voyais à Noël avec ma famille, avec les gens que j'aime, ou dans n'importe quel souper de famille, où est-ce que là, tu es comme, tu sais, je suis avec les gens que j'aime, avec les gens avec qui je suis à l'aise, avec qui je suis à l'aise de partager, avec qui je suis à l'aise de rire, de célébrer, de faire tout ça. Tu sais, quand il y a comme un intrus qui rentre dans le groupe, comme quelqu'un a amené un ami de la famille, là, tu le connais pas trop. Il y a peut-être des fois où que moi, je suis comme, ah, tu sais, c'est le fun, mais naturellement, j'aurais aimé mieux comme pas me forcer à soir. Ça aurait été plus facile de juste comme être ensemble puis pas devoir me forcer à apprendre à le connaître puis à le trouver intéressant, puis tu sais. Puis là, c'est comme, ça, des fois, il y a ces pensées-là, puis là, c'est comme, là, tu sors de ça plus fatigué, donc là, c'est comme plus facile de dire, on va rester en famille, puis... On va être plus fermés ensemble. Quand on est en famille, on est en famille. Les autres, on laisse tranquille. Mais la famille de Dieu, c'est une famille qui est inclusive et accueillante. En d'autres mots, on veut que les autres vivent la famille de Dieu. On veut que les gens qu'on côtoie, on veut les traiter comme qu'ils puissent goûter à la famille de Dieu, qu'ils puissent voir l'amour qu'on a les uns pour les autres ou l'amour qu'on peut avoir pour eux parce qu'on veut aimer comme on aime un frère, comme on aime une sœur, parce que Dieu nous appelle à aimer. Et c'est ce défi-là qu'on veut avoir dans les groupes Connexion, où est-ce qu'on veut bâtir cet esprit de communauté, de famille, tout en priant pour que Dieu puisse faire de nous une bénédiction pour les autres, pour que les autres puissent vivre cette vie de famille-là. On veut accueillir les gens. On veut être inclusif. Et on a sûrement toutes sortes, tout plein d'histoires de comment est-ce qu'un frère ou une sœur est une bénédiction pour nous dans notre vie. Des fois, je me rends compte dans ma vie que les vérités bibliques, je les connais. Je le sais que Dieu, c'est mon Père. Je sais qu'il m'aime. Mais ça prend quelqu'un pour me le rappeler. Ça prend ma femme, un ami, un groupe, mon groupe maison, en espérant de voir ce genre de relation-là. C'est aussi c'est ce qu'on désire dans les groupes connexions, qui ont besoin de nous rappeler qu'on est aimé ou qu'il y a peut-être un péché dans notre vie qui a besoin d'être adressé, ou peu importe. C'est tellement bon de voir comment est-ce que on a besoin des uns des autres. Et ça m'est arrivé juste cet été où est-ce que je vivais des difficultés, où est-ce que je me posais des questions, où est-ce que je vivais des lourdeurs dans ma vie, dans ma relation avec Dieu. Puis j'avais un ami qui me rappelait des choses, puis on parlait ensemble, on faisait juste parler. Puis là, je réfléchissais, puis Dieu a utilisé ça, puis Dieu a utilisé certainement mon temps au camp des boulots avec des gens, lors des enseignements aussi, avec les conférenciers, tout ça pour toujours me rappeler qu'il m'aimait, qu'il prenait soin de moi, qu'il ne m'abandonnait pas. Et c'est des moments, des vrais moments où on a ces doutes-là dans notre vie. On pense qu'on est tout seul, puis là, on n'en parle à personne. Mais la face, c'est que Dieu nous a créés pour qu'on puisse être en communauté puis qu'on puisse vivre ces choses-là ensemble. Et dernièrement, ça, tout un été là, de temps, dernièrement, j'étais dans une conférence, j'écoutais le conférencier, c'était bon, là, je l'écoutais au bout, puis à un moment donné, j'ai comme arrêté de l'écouter, puis tout ce que j'entendais, c'était comme je ne sais pas si c'était ma voix ou peu importe, mais tout ce que j'entendais, c'était... Je ne t'ai pas abandonné. J'ai pris soin de toi même dans ces moments difficiles-là. J'ai amené des gens auprès de toi. Je t'aime. Je t'aime encore. Je t'aime encore même si tu as douté. Je t'aime encore même si tu as lutté. Puis c'était comme moi, merci Seigneur. J'étais là dans la conférence. C'était pas du tout émotionnel qu'est-ce que le gars disait. Puis je me suis mis à pleurer. Puis là, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai juste écrit à ma femme de dire, tu sais, j'ai vécu des moments plus difficiles dans la dernière année, dans les derniers mois, mais Dieu me dit aujourd'hui, je t'aime, puis je t'ai pas abandonné. Puis ça, c'est tous les gens autour de moi qui ont utilisé pour faire ça. Et c'est ce qu'on veut voir chacun d'entre nous, c'est ce qu'on espère que chacun d'entre nous puisse vivre. C'est notre prière pour chacun d'entre nous, et c'est pour ça qu'on met en place les groupes connexions. C'est qu'on veut dire, on est intentionnel avec ça, on pense que c'est important, c'est primordial pour notre Église. Qu'on puisse connecter ensemble avec Dieu, les uns avec les autres et avec la communauté. Et ce matin, peut-être quatre questions de réflexion que je vous ai encouragées. Je pense que peut-être juste une question devrait s'adresser à vous. Mais juste répondre à une de ces questions-là. Est-ce que c'est difficile pour toi, la première, est-ce que c'est difficile pour toi ce matin de considérer l'amour de Dieu comme père? Si c'est le cas, va vers un frère ou une sœur, partage-lui qu'est-ce que tu vis. Partage-lui qu'est-ce que tu vis. Dis-lui que c'est tough pour toi en ce moment de voir Dieu comme un père. Numéro 2, est-ce que tu considères l'amour de Dieu pour toi comme un père pour la première fois? C'est la première fois que tu considères que peut-être que Dieu t'aime comme un père, que son amour au travers de son fils qui est mort à la croix pour te pardonner de tes péchés, c'est la première fois que tu considères ça, que peut-être que tu l'entends ou que ça sonne une cloche ce matin. Viens nous voir pour en parler. On a des gens au kiosque qui sont ici qui vont se faire un plaisir de te diriger vers les bonnes personnes pour parler de ça avec toi. Peut-être que ce matin, est-ce que tu sens ce désir de découvrir ou redécouvrir la famille de Dieu? tu as le goût de le vivre. Mais je t'encourage ce matin, ce que je t'encourage, c'est à partir de la semaine prochaine, c'est dans les groupes connexions, je vous encourage de parler de ça ensemble, de ce désir-là que vous avez de vivre ces connexions-là, ces relations-là. Parce que si tu as ce désir-là, tu n'es pas le seul qui désire ça. Comment est-ce qu'on peut être une famille à l'intérieur de la grande famille? C'est une bonne question pour les groupes connexions. Est-ce que Dieu t'appelle à t'investir dans la vie des autres, d'une manière ou d'une autre? Bien, les groupes connexions, c'est un lieu où on va pouvoir se servir les uns les autres, ce qui va nous permettre aussi de servir, de donner de ce que Dieu nous a donné, d'aimer, de prendre soin, d'exercer nos dons, d'exercer notre expérience, puis de recevoir des autres aussi. Mais finalement, souviens-toi, ce n'est pas ce que tu fais qui détermine qui tu es. On est des enfants de Dieu à cause que Dieu est venu vers nous et il nous a adoptés. Et comme Paul le dit dans sa lettre aux Éphésiens, célébrons-le pour qui il est et ce qu'il a fait. Célébrons la grandeur, la gloire de sa grâce abondante. Prions. Merci Seigneur pour ce temps, pour ce texte, pour la richesse de ce texte ce matin, l'abondance de ta grâce. Merci pour ce que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. On te prie que tu puisses continuer de travailler en nous ce désir-là d'être la famille de Dieu. Merci, Seigneur, je ne l'ai pas dit ce matin, mais merci pour toutes ces personnes-là qui prennent soin des autres, pour toutes ces personnes-là qui sont un frère et une sœur, une mère, un père pour les autres dans l'Assemblée. Et c'est par ta grâce, Seigneur, qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Et merci pour tout ce que tu fais déjà à l'Église de Sentier. Et on te prie que tu puisses continuer à nous faire grandir dans notre amour les uns pour les autres, que tu puisses nous faire grandir premièrement dans notre amour pour toi et que tu puisses nous rappeler constamment qu'on est aimé par toi, Seigneur Jésus. Rappelle-nous, Seigneur Jésus, que nous sommes qui nous sommes à cause de qui tu es et de ce que tu as fait pour nous. C'est dans ton nom qu'on te prie et qu'on te remercie. Amen.